Il s'agit de vous, Esther Pivet. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Alors, j'ai envie de dire, évidemment, nous allons parler de cette enquête que vous avez menée sur la théorie du genre. Vous êtes ingénieur de formation. Vous nous évoquerez aussi peut-être un peu votre vie professionnelle, votre vie d'avant, si je puis me permettre. Vous êtes polytechnicienne de formation, vous êtes mère de 4 enfants. Et voici qu'en 2013, vous créez Vigigender. On peut dire que là, c'est le démarrage de quelque chose de totalement nouveau dans votre vie, que la création de Vigigender. Oui, ça a tout changé.
Absolument, complètement nouveau, la création de ce collectif de parents, qui est un collectif lanceur d'alerte, en fait, sur la diffusion de la théorie du genre à l'école, essentiellement.
Qu'est-ce qui se passe cette année-là? Pourquoi vous créez ce collectif?
Eh bien, un ami me prête le livre qui s'appelle « Gender, qui es-tu ?», qui est une somme de conférences sur l'idéologie du genre. Et là, j'ai été complètement abasourdie par ce que j'ai appris, ce que j'ai compris de cette théorie du genre. Et quand j'ai compris qu'elle allait être diffusée à l'école à travers, à l'époque, l'expérimentation ABCD de l'égalité au primaire, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, ce n'est pas possible de laisser faire ça, de laisser formater les enfants avec cette idéologie qui veut nier finalement la différence sexuelle.
Parce que si on devait définir assez simplement ce dont il s'agit, comment on le définirait ?
La théorie du genre est une théorie qui affirme ou qui postule que l'identité sexuelle masculine ou féminine n'est qu'une construction de la société, de la culture. C'est tout ce que vous avez appris, reçu par votre éducation, par la culture, qui vous a fait homme ou femme. Le corps sexué, dans cette théorie, n'a aucune espèce d'influence, aucune même signification. Il n'est qu'un objet pour vivre et surtout pour jouir. Et donc, dans cette théorie, l'homme se fait comme il le veut. L'identité n'est plus définie par le corps sexué, l'identité est définie par mes désirs. Qu'est-ce que je désire être, homme, femme, autre, ni l'un ni l'autre, ou les deux? Il faut savoir que c'est ce que je viens de citer là, c'est ce qui est prévu dans les manuels de Sciences et Vie de la Terre pour la seconde à la rentrée 2019. Voilà comment on définit l'identité auprès des enfants, des jeunes de 15 ans. L'identité sexuelle, c'est être homme, femme, c'est se sentir homme, femme, ni l'un ni l'autre, ou les deux. C'est ça l'idéologie du genre. Donc, il veut finalement nier la différence sexuelle. Alors, certes, ils conçoivent qu'il y a une différence biologique, mais pour eux, elle n'est sans aucune importance, sans aucune influence. Et tout est construit. Et donc, il faudrait pour eux arriver à une société où on supprime cette différence sexuelle, ces différences entre les sexes, puisque pour eux, ces différences sont inégalitaires, il n'y a pas d'égalité. L'égalité qu'ils conçoivent, c'est une égalité identité entre l'homme et la femme. Donc, ils veulent arriver à une indifférenciation des sexes. Et à partir du moment où vous voulez indifférencier les sexes et que le corps ne dit rien, eh bien, vous comprenez bien qu'un homme et une femme, deux hommes ou deux femmes, c'est la même chose, puisque le corps n'est rien, ne dit rien de nous. Et donc, cette théorie mène aussi à une mise sur le même plan de toutes les attirances sexuelles, quelles qu'elles soient, homosexuelles, hétérosexuelles, bisexuelles, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Et tout est équivalent, en fait. Et cette nouvelle identité, l'identité de genre, je suis ce que je veux, et j'ai des désirs sexuels qui sont tous, tout est équivalent, me donne des droits. C'est ça la nouvelle société du genre. Ce n'est plus uniquement le corps sexué qui donne encore, le fait d'être homme ou femme donne encore des droits, heureusement, mais c'est aussi ce que je désire être et mes orientations, mon orientation sexuelle, tout ça pouvant varier au cours de la vie. Hein, ça, les désirs peuvent varier. Eh bien, cela me donne, dans cette nouvelle société, des droits, donc ce qu'on appelle les droits LGBT, lesbiennes, gays, bi, transsexuelles. Et la première loi qui nous a fait entrer dans cette société du genre, eh bien, c'est la loi ayant ouvert le mariage et l'adoption pour les personnes de même sexe, qui est fondée totalement sur cette théorie du genre qui veut en fait arriver à une indifférenciation des sexes et des sexualités dans la société, qui ne serait plus formée que d'individus autonomes, voilà, un homme provisoire qui se définit lui-même. Et voilà.
Mais est-ce qu'à titre personnel, tout ça vous mine ? Je me permets cette question un peu, oui, pas intime, mais presque. Parce qu'on sent que la cause vous bouleverse, vous tient à cœur, et même plus que ça. comme si vous pouviez percevoir des enjeux qui sont, qui donnent le tournis, qui peuvent même faire froid dans le dos. Vous semblez touché à titre personnel par la cause.
Alors, je suis touchée à titre personnel, alors seulement à cause de mon affectivité peut-être trop féminine, mais je peux vous assurer que quand des parents m'appelaient au départ pour me donner des témoignages, j'étais très bouleversée, je pleurais. J'ai dû me blinder hein, parce que c'est compliqué et je suis de fait toujours bouleversée parce qu'en fait, cette théorie du genre s'attaque à la famille, s'attaque au couple humain, à l'homme et la femme.
En fait, en toile de fond, ma question c'est aussi un peu, est-ce que vous n'exagérez pas ?
Ah,
voilà.
C'est souvent une question qu'on me pose. Alors, il faut savoir que cette idéologie du genre est menée par un lobby, des lobbies, surtout le lobby LGBT, mais qui est mondial. C'est pas du tout juste franco-français, c'est mondial, c'est mené par l'ONU, puisque le terme de genre a été introduit à l'ONU en 95. L'ONU, d'ailleurs, conditionne l'octroi de subventions aux pays en voie de développement à la nomination d'un ministère chargé du genre, notamment en Afrique. Donc c'est un lobby mondial qui a énormément d'argent, énormément, qui est très puissant. Donc moi, Esther Pivet, je suis juste dans un combat totalement mais dérisoire. Donc si vous voulez, c'est pas une vague qui nous arrive dessus, c'est un tsunami. Alors je sais bien quand on me dit ça, on me dit oh vous exagérez, etc. Je voudrais citer quelques exemples. Il n'y a pas une semaine, je crois pas, depuis 2-3 mois, que sans que j'apprenne qu'un jeune, 14-15 ans, va changer de sexe. Mais attention, on ne change pas de sexe puisque toutes nos cellules sont sexuées. C'est-à-dire qu'il va juste subir une opération chirurgicale pour changer de sexe anatomique avec une prothèse, blablabla. Il va devenir stérile. Et en fait, c'est dramatique parce que c'est un leurre. Pourquoi ? Parce que toute la société, que ce soit dans les médias, les séries télévisées, les films, les affiches publicitaires, tout vante le transsexualisme, transgender, comme ils disent. Et donc, les jeunes qui... à 15 ans, sont pas bien dans leur basket. Voilà, il y a le corps qui est en pleine puberté, on se pose plein de questions, on se sent pas forcément bien, et il y a des jeunes, effectivement, qui se sont pas bien dans leur corps. Et qu'est-ce que leur dit la société ? Et bien, à un garçon, par exemple, et bien, si ça se trouve, en fait, t'es pas un garçon. En fait, t'es sans doute... Si tu changeais de sexe, tu irais mieux. Tu te sens pas bien, mais change de sexe. Voilà. Et c'est dramatique parce que c'est un leurre et c'était un mensonge. Et toute la théorie du genre repose sur ce mensonge de John Money, qui est un médecin néo-zélandais, qui avait fait une opération sur un garçon en le transformant en fille. Après une circoncision qu'il avait ratée, il avait dit à ses parents « Mais c'est pas grave, vous l'élèverez en fille, et puis tout ira bien, en fait. » Et ça n'a pas marché. Ce garçon, arrivé à l'adolescence, a eu des pensées suicidaires. Ses parents lui ont révélé la vérité, qu'elle n'était pas une fille, mais un garçon. Il a demandé à redevenir homme et puis plus tard, à 40 ans, il s'est suicidé. Et tout le gender repose sur cette histoire, parce que John Money a expliqué que son expérience avait très bien marché, que cette petite fille était devenue une jeune fille, que tout allait très bien. C'est totalement faux. Et donc, non, je n'exagère pas. C'est donc l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, les instances européennes. Les lobbies extrêmement présents là-bas.
Mais comment expliquer que les tenants de la théorie du genre soient aujourd'hui aussi influents ? Parce que ça frappe un peu le bon sens que vous êtes en train de me dire. C'est-à-dire, on est homme, on est femme, enfin tout un chacun de ceux qui nous écoutent le savent bien sans pouvoir parfois trouver même les arguments pour dire, si ce n'est l'argument corporel.
Le corporel, bien sûr.
Pour dire le contraire, voilà, ou pour même alléguer ça. Donc, comment expliquer que les tenants de cette théorie soient allés aussi loin aujourd'hui dans leur influence ? Il y a de l'argent derrière, il y a des moyens,
de l'argent derrière,
il y a des enjeux.
Donc, il y a de l'argent derrière, puisque cette société, finalement, mène ensuite, après le mariage pour tous, ça mène à la PMA, la procréation médicalement assistée, qui est vraiment sur le devant de la scène actuellement, puisque Édouard Philippe a annoncé le projet de loi pour fin juillet. Et donc, ouvrir la procréation médicalement assistée à deux femmes ou aux femmes célibataires, donc supprimer le père, faire de l'enfant un dû, en fait, un objet de consommation, on l'achète, et puis après, ça sera la gestation pour autrui, pour tous, pour que toute personne puisse avoir un enfant comme elle le veut. Et donc, c'est une société marchande, et derrière, effectivement, la GPA, il y a énormément d'argent, ça coûte très cher, ça rapporte à beaucoup.
Donc vous liez tout ça avec la théorie du genre.
Ah, mais c'est complètement lié. C'est-à-dire que la théorie du genre nie complètement la nature humaine. L'homme décide qui il est. Il décide toutes les comportements sexuels sont équivalents. Donc, comme évidemment, il y en a qui ne donnent pas d'enfants, et bien pour avoir un enfant, il va falloir fabriquer les enfants. Donc, tout est lié. Voilà.
On en est là aujourd'hui dans la seconde partie de cette émission, on ira un petit peu plus loin, peut-être de façon plus positive, en proposant l'alternative. L'alternative, c'est une pensée, par exemple, basée sur, ou une vie basée sur l'anthropologie chrétienne. On voit ça juste après la pause. Je rappelle, juste avant cette pause, que vous êtes l'auteur d'une enquête sur la théorie du genre parue aux éditions Arthège. À tout de suite, Esther Pivet.
Présence. Vous aimez les fables de Jean de La Fontaine ? Vous allez adorer l'instant à fable. Promenez-vous en compagnie de Pierre Bruel et de son inépuisable répertoire. Il déniche pour vous des pépites auditives et joue avec l'incroyable source d'inspiration qu'a pu être et sera le poète.
L'instant à fable sur Présence, le mardi 18h45 et le samedi 12h50 et 20h.
De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Notre invité aujourd'hui, c'est vous, Esther Pivet. Vous êtes mère de famille, vous êtes de formation ingénieur et polytechnicienne. Vous avez exercé dans des métiers qui sont liés à cette formation. Et puis voici que vous tournez la page il y a quelques années maintenant, puisque ça n'est pas lié, il n'y a pas une relation de cause à effet. Mais en 2013, vous fondez ce collectif Vigigender, dont vous dites qu'en fait, ce sont des lanceurs d'alerte. Vous êtes des lanceurs d'alerte. Concernant cette théorie plus ou moins rampante, mais qu'aujourd'hui s'affiche de façon très ostensible même, qui est la théorie du genre. Sa définition, vous nous disiez, c'est très simple, c'est qu'on nie la réalité de nos corps. Nous sommes hommes ou femmes, ben non, nous choisissons de l'être de façon indifférenciée. Voilà. On vous doit enquête sur la théorie du genre, parue chez Arthège. Est-ce qu'il y a une alternative à la théorie du genre qui semble être de plus en plus répandue? Qu'est-ce qu'on peut dire en face? Qu'est-ce qu'on peut vivre en face de cela?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la théorie du genre, en fait, est le dualisme contemporain qui scinde, qui dissocie le corps et l'esprit. Et donc l'alternative, c'est de réunifier le corps et l'esprit. Quand on dissocie le corps et l'esprit, on désintègre la personne humaine et ce n'est que cause de souffrance. Et donc toute l'aspiration de la personne humaine, c'est d'arriver à une unité intérieure entre son corps et son esprit. Et donc aujourd'hui, l'alternative, c'est de donner le beau message du corps. Qu'est-ce que dit mon corps sexué ? Il a certes des composantes biologiques, et de plus en plus, heureusement, aujourd'hui, les neurosciences font des progrès extraordinaires et montrent en quoi... Montrent d'abord que les enfants, les garçons et les filles, naissent avec un cerveau différent, ce que nient les théoriciens du genre, qui disent que les différences entre les cerveaux ne se développent qu'après la naissance, à force de faire jouer les petites filles à la poupée et les petits garçons au pistolet. Vous voyez,
c'est culturel. Quoi.
C'est culturel, c'est à force d'avoir formaté les petites filles avec des jeux de poupées, elles deviennent mères et elles s'occupent plus des enfants que les hommes. Vous voyez, c'est complètement ça. Et à force d'avoir donné des jeux d'épée, de cap et d'épée aux garçons, ils aiment davantage, devenus hommes, ils aiment davantage que les femmes, les métiers où il y a du pouvoir, il y a de la compétition. Voilà. Donc, en fait... les neurosciences nous aident pour montrer qu'il y a des différences entre les cerveaux et donc des différences d'aptitude cognitive entre les hommes et les femmes, en moyenne. Et il y a une différence fondamentale dans le corps, c'est que la femme, elle accueille la vie dans son corps. Elle est intérieure, elle est accueille, et l'homme, il donne la vie à l'extérieur de son corps. Il est dans l'initiative, dans l'action, voilà, dans le projet. Et cette différence physique, en fait, je rejaillis sur tout notre être. C'est pas juste une différence physique. Allez hop, j'ai un enfant et puis basta, c'est terminé. Cette différence physique rejaillit sur notre psychique, notre spirituel, notre esprit. Et donc le corps, le psychique et l'esprit sont tout féminin ou tout masculin. Et le fait que la femme ait cette capacité d'accueillir la vie en elle, eh bien, lui donne une capacité de l'autre qui est en moyenne supérieure à la capacité de l'autre, de l'homme. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, on est différent en fait. Et le corps, en fait, notre corps est un corps de don. C'est-à-dire que la personne humaine, ce qui caractérise une personne humaine, c'est que c'est un être de don. C'est un être fait pour le don. Là où la personne humaine s'accomplit, c'est dans le don de soi. À Lourdes, vous avez un exemple magnifique de don de soi. Toutes ces personnes qui sont au service des autres, ben, le service des autres, ça passe par notre corps. Ce sont des gestes de tendresse, un sourire, un soin. Tout ça, ça passe par notre corps. C'est une forme de don de soi-même. Mais plus encore, plus loin que ça, notre corps est un corps de don fait pour le don total de soi. Et ce don total de soi, il est entre l'homme et la femme. L'homme est fait pour le don total à la femme, qui a la capacité de l'accueillir en elle, totalement, et dans cet accueil, elle se donne totalement à lui. Et ce don et cet accueil mutuel de l'homme et de la femme, eh bien, ça crée une communion. Et cette communion, eh bien, cette communion est à l'image de Dieu. Dieu est communion de personnes. Le Père est totalement donné au Fils, qui accueille le Père. Le Fils est totalement redonné au Père, et la circulation d'amour entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit-Saint. Mais cette communion d'amour, en fait, elle se révèle dans la communion de l'homme et de la femme, dans la chair, dans le don des corps. Et c'est ça la bonne nouvelle du corps.
C'est Saint Jean-Paul II qui a beaucoup parlé d'une théologie du corps.
Voilà, c'est que le corps est un témoin de Dieu. Le corps nous dit Dieu, le corps nous révèle Dieu, Trinité. Et c'est ça la bonne nouvelle du corps aujourd'hui. Alors bien sûr, avec le péché, on a tout foutu par terre, ce beau plan, beau projet de Dieu qui voulait que par le corps, on puisse le révéler pour, in fine, après notre mort et à la fin des temps, à la résurrection finale, dans notre corps, nous donner totalement à Dieu, à la résurrection. La résurrection, c'est ça, c'est un don total de nous-mêmes à Dieu, une habitation de Dieu en nous qui va réaliser justement cette unification de notre être entre le corps et l'âme, qui seront totalement unifiés à la résurrection, et ce sera une communion totale avec Dieu. Nous avons été créés par Dieu et nous sommes faits pour Dieu. Et ce corps qui est un corps de don, mais dans notre vie, nous avons, avec la grâce, puisque avec le péché, on a un peu perdu cette capacité à se donner, avec la grâce qui nous est donnée par le Christ, eh bien, peu à peu, redevenir corps de don, redevenir dans le don pour l'autre. Voilà, être pour l'autre et non pas que l'autre soit pour moi. Être pour l'autre. Et ça, dans le mariage, c'est un don qu'on se fait le jour du mariage, qui est un don total, ou dans la vie consacrée, qui est un don total à Dieu. Et les consacrés, en fait, anticipent sur terre ce don total que nous aurons à faire à Dieu à la résurrection. Ils nous donnent déjà à voir notre vie future. Et dans le mariage, on se donne l'un à l'autre, une bonne fois pour toutes, et ce don total, il est à réactualiser tous les jours, en fait. Alors bien sûr, on se casse la figure, c'est pas toujours facile, mais avec la grâce, on arrive peu à peu. Le mariage à vivre une école de communion, en fait. On vit une école de communion pour se préparer à la communion finale. Voilà, c'est ça la belle anthropologie chrétienne, c'est ça la bonne nouvelle du corps. Et je vous assure que quand on donne ce message aujourd'hui aux jeunes, puisque moi je le diffuse à travers ce qu'on appelle des forums Waouh,
oui.
Vous en avez eu un à Lourdes.
Exactement.
Il n'y a pas très longtemps,
oui.
Eh bien... Dans ces forums, on diffuse cette bonne nouvelle du corps qui a été sur laquelle Saint Jean-Paul II a donné dans sa théologie du corps un éclairage extraordinaire et qui est là pour notre temps, pour contrer cette idéologie du genre. Puisque le seul antidote à la théorie du genre, c'est la théologie du corps, qui donne la bonne nouvelle du corps et qui dit quoi ? Qui dit « mon corps, c'est moi ». La théorie du genre dit « mon corps, c'est pas moi, je suis ce que je veux ». La théologie du corps dit « mon corps, c'est moi ». Et me définit comme être de don, c'est un corps de don. Et en me donnant, je m'accomplis. L'homme, je vais tirer une citation de Gaudium et Spes, Vatican II. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se réaliser que dans le don sincère de lui-même. En fait, on se dit, oui, mais si je me donne, je vais me perdre. Mais non, l'homme est fait pour se donner. C'est la seule créature faite pour se donner. En vue du don total à Dieu. Et quand on dit ça au Forum Waouh, où on a massivement des jeunes entre 18 et 30 ans, beaucoup, 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 parce qu'ils ont une soif de comprendre. La sexualité est tellement banalisée, dévalorisée aujourd'hui, c'est même plus de la sexualité humaine, excusez-moi, on fait ce qu'on veut, le moment qu'on se protège et qu'on est consentant, et en fait ça détruit l'homme, parce que l'homme n'est pas fait pour ça. Et quand ils découvrent ce beau message sur le corps, eh bien, je peux vous assurer que ce sont des larmes et des larmes et des larmes et qui nous disent « Mais pourquoi on ne nous a pas dit ça plus tôt ? Pourquoi ? » Et il y en a qui sont en colère. Mais tellement en colère, et c'est ça qui est extraordinaire quelque part, qu'ils se mettent en mouvement, ils deviennent apôtres. Et pour reprendre sans doute une image qui est chère aux habitants de Lourdes, de la boue en fait, de la boue du gender, de la boue de cette idéologie, va couler une source. Voilà. Et cette source, elle va jaillir grâce à la théologie du corps.
Depuis Rome est paru là, récemment un texte qui s'intitule « Hommes et femmes, il les créa », qui a été écrit par des croyants au Vatican.
Le dicaster pour l'éducation du Vatican.
Voilà, donc c'est un ministère.
Un ministère du Vatican.
Du Vatican. Mm-hmm. Ça rejoint complètement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ce sont des armes, des éléments pour à la fois comprendre les enjeux qu'il y a derrière la théorie du genre et également comment lutter contre.
Voilà, donc ce document est une bonne nouvelle parce qu'il fait d'abord un constat qu'il y a une urgence éducative face au déferlement de la théorie du genre, notamment dans les... Il s'adresse aux institutions catholiques, donc les écoles ou d'autres institutions catholiques, pour dire attention, vraiment, prenez garde à cette théorie du genre qui se diffuse et donne aussi des pistes pour contrer cette théorie du genre. Et bien la piste, c'est quoi? C'est homme et femme, il les créa. C'est retourner à notre corps sexué. Qu'est-ce que Dieu avait dans l'intention à l'origine en nous créant homme et femme? Il ne s'est pas juste trompé, quoi. Il n'a pas juste eu une petite... Ah oh, ben mince, je me suis trompée, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Donc, sauf que c'est nous qui mettons tout, qui ne voulons pas accueillir le don de Dieu. Et c'est ce que dit ce texte, c'est que l'anthropologie chrétienne, c'est apprendre finalement aux jeunes à accueillir l'autre comme un don de Dieu, au plus de mettre la main sur l'autre, s'accueillir soi-même comme un don de Dieu, accueillir son corps sexué comme un don de Dieu et non pas dire « Ah non, mon corps, c'est pas moi et je me définis totalement ». Accueillir son corps comme un don pour pouvoir se donner. Et c'est ça qu'il dit. Il propose ce texte de développer des outils pour apprendre aux jeunes l'accueil du don, l'accueil de soi comme un don et pour prendre soin de l'autre. Et prendre soin de soi. Il finit sur ce beau terme de prendre soin. Je trouve ça magnifique. Et par ailleurs, je développe avec une association qui fait aussi waouh, un parcours qui s'appelle Grammaire de la vie. Et Grammaire de la vie, c'est exactement ça. C'est apprendre à accueillir l'autre comme un don, soi-même comme un don. L'autre comme un don qui nous est confié par Dieu pour que nous en prenions soin, pour que nous vivions une communion, qui est une communion qui n'est pas dans un don total qui engage le corps, mais qui est une communion dans l'accueil de l'autre comme un don et dans le service de l'autre. Et cette communion fraternelle, nous sommes appelés à être tous ses frères, eh bien, pour ensuite vivre éternellement en Dieu la communion des saints. Et ce texte est une bonne nouvelle parce que c'est aussi un cri d'alerte pour prendre en compte cette urgence éducative et la nécessité de développer une pédagogie du don, en fait, une pédagogie pour apprendre aux jeunes à accueillir l'autre comme un don, avoir de l'estime pour eux-mêmes. Parce que finalement, si on se sépare de Dieu, si on se coupe de Dieu, c'est notre péché à tous, et on ne peut pas s'accueillir comme un don, puisqu'on s'est coupé du donateur, du créateur. Tandis que si on renoue avec Dieu, on va s'accueillir. Dieu ne veut pas notre malheur. C'est notre péché à nous de croire que Dieu veut notre malheur. Dieu veut notre bonheur. Et alors bien sûr, il y a des choses qu'on n'aime pas chez nous, mais justement, prendre conscience du regard d'amour infini que Dieu a sur nous va nous permettre de nous accueillir comme un don, va nous permettre d'accueillir l'autre comme un don que Dieu nous confie pour que nous en prenions soin. Et non pas que nous mettions la main sur l'autre. Et cette pédagogie de la grammaire de la vie, du don, pour moi, c'est la nécessité aujourd'hui. Il n'est plus possible aujourd'hui... C'est bien tout ce qui se fait, des interventions dans les écoles, c'est nécessaire pour parler d'éducation affective et sexuelle. Mais aujourd'hui, 2 heures, ça ne suffit pas. Parce que les enfants sont matraqués au goutte à goutte dans la culture par des messages contraires. Et donc, il faut un programme en fait, qui va leur expliquer ce que c'est qu'une personne humaine, faite pour le don. C'est quoi une personne avec un corps, un cœur, un esprit que nous sommes invité à avoir unifié tout cela, que ce n'est pas toujours facile, mais qu'on peut y arriver et que c'est là que la clé du bonheur, en fait.
Merci Esther Pivet pour toutes ces informations, ces éléments de compréhension aussi de ce qu'il y a comme enjeu derrière cette théorie du genre. Enquête sur la théorie du genre, paru chez Arthège, c'est votre livre paru en début d'année. Et puis, il y a cette grammaire de la vie. En tapant sur Internet, je pense...
Grammairedelavie.fr. Vous tombez sur notre site, on fait des formations. Voilà. Et si vous souhaitez qu'on vienne former des transmetteurs, des éducateurs, des professeurs dans votre diocèse...
L'appel est lancé.
Voilà. Nous pouvons venir.
Grammaire de la vie. Voilà. Vous tapez ça sur un moteur de recherche, vous trouverez. Et puis, il y a ce texte paru récemment. « Hommes et femmes, il les créa », venant du Vatican. Merci beaucoup. Un mot pour terminer peut-être sur une expérience que vous avez vécue au cinéma concernant Lourdes. Le film Lourdes, vous l'avez vu. Qu'en avez-vous pensé, Esther Pivet ?
J'ai vu ce film, j'ai pleuré pendant tout le film.
Parce qu'il est triste, rassurez-vous.
Non, parce que j'ai... alors que dans le gender, je ne vois que de la boue. Et là, j'ai vu que de la beauté. La beauté d'abord de ces personnes vulnérables, blessées dans leur corps, dans leur psychique, et qui sont belles parce que la fragilité fait partie de la beauté. C'est ce qu'on dit dans la grammaire de la vie. La fragilité fait partie de la beauté. Pourquoi ? Parce qu'elle permet aussi à toutes ces personnes de mettre leur force, leur bonne santé, pour le coup, au service de ces personnes fragiles. Et donc, elle permet aussi à ces personnes qui sont au service d'être, de se révéler, puisqu'elles sont dans le don. Et de voir cette simplicité, cette don et cet accueil mutuel, en fait. Et ces personnes qui sont dans le vulnérable, qui se laissent toucher, qui se laissent soigner, qui se laissent dans l'humilité. Et puis, ce film n'a pas occulté la dimension chrétienne, la dimension du Christ qui, par sa grâce, la grâce de la rédemption, vient guérir les cœurs. Et ça, c'est extraordinaire. Ça aurait pu être juste traité sous un angle humaniste, mais en fait, humaniste qui est déshumanisant. Parce qu'en fait, l'homme ne devient vraiment homme que quand il accueille la grâce du Christ, qui est l'homme véritable. Donc, merci à ceux qui ont fait ce film, que j'irai revoir.
Le film, c'est Lourdes, hein, allez-y au cinéma, il est actuellement dans beaucoup de salles en France. Merci Esther Pivet et à très bientôt, j'espère, à Lourdes. Au revoir.
Au revoir, merci.
Présence, présence. De passage à Lourdes.
Présence à Mirande, 104.2. 1 euro, c'est le prix d'un journal quotidien. À combien estimez-vous le prix d'une présence à vos côtés 24 heures sur 24? Donnez. Radio Présence.
Hoche, 89.6.
Un pays grand comme la France, avec des villes et des villages, avec des bateaux de plaisance et des chalets dans les alpages. On y vit dans des paysages, à faire rêver le monde entier qui radine avec ses bagages, il veut aussi en profiter. Des pavillons, ça me suffit, et des lotissements en carton, des châteaux avec des piscines et des banlieues en perdition. Dans la campagne éclose des enseignes aux couleurs idéales où de vieux enfants résignés font la queue pour gagner 10 balles. Welcome to my paradise, le seul pays, le seul pays.